Clé de la voix.
La clé de la voix.
Bienvenue dans la clé de la voix. Ensemble, partons à la rencontre d'artistes, de professionnels de la voix, de scientifiques et de thérapeutes holistiques pour vous aider à trouver votre voix dans tous les sens du terme. Je suis Clémentine Coppolagne, créatrice de ce podcast, chanteuse, coach vocal, sophrologue et praticienne en breathwork. Ce qui m'intéresse, c'est la relation intime et unique que nous entretenons avec la voix. Si vous souhaitez en discuter avec moi au micro de la clé de la voix, contactez-moi sur les réseaux sociaux à Clémentine Coppolagne. C'est aussi l'endroit idéal pour suivre les coulisses du podcast. En vous abonnant, en laissant un commentaire et en attribuant des étoiles, vous augmentez la portée de ce podcast, tout en suscitant l'intérêt des artistes de renom que vous aimeriez écouter dans les prochains épisodes. En guise de remerciement, chaque mois je tirerai au sort parmi les avis et l'un ou l'une d'entre vous recevra mon kit de souffle ou pourra faire une séance avec moi. Toutes les informations sont disponibles dans la description ainsi qu'un lien pour télécharger 3 exercices gratuits. Et maintenant, faisons résonner la magie de la voix. Je suis ravie d'accueillir Marie Mailly, ORL spécialisée en laryngologie, phoniatrie et en chirurgie des cordes vocales. Marie est experte dans le traitement des pathologies de la voix. Elle pratique l'électromyographie du larynx ainsi que l'utilisation de la toxine botulique pour les mouvements anormaux de la sphère ORL. Vous la connaissez peut-être déjà sous le nom de Docteur de la Voix sur Instagram, où elle partage ses connaissances sur la voix. Dans cet épisode, nous explorerons ensemble les remèdes pour une voix saine, en répondant à toutes vos questions. Quel est l'impact des médicaments sur la voix? Quels sont les conseils pré- et post-chirurgie? Comment prévenir les troubles vocaux et maintenir une voix saine au quotidien? De la production de la salive à la rhinoplastie, aucun aspect ne sera négligé. Nous discuterons également des avancées de la science et des cas cliniques que Marie rencontre dans sa pratique quotidienne. J'espère que vous apprécierez autant que moi cet épisode sur la santé de la voix.
Bonjour Marie.
Bonjour Clémentine.
Je suis ravie de pouvoir faire cet épisode avec vous.
Moi aussi, je suis ravie de vous rencontrer.
Est-ce que vous voulez bien nous dire comment en êtes-vous venue à la voix ?
Je fais partie d'une famille qui est très tournée vers la culture. Donc, nous allions beaucoup au spectacle. J'ai appris la musique, j'ai appris le violon au conservatoire de Chambéry. Je faisais beaucoup de chant choral, de solfège. J'ai fait du théâtre. Et finalement, j'ai baigné dans tout ça pendant mon enfance. Et ensuite, lorsque j'ai commencé médecine, et ensuite j'ai choisi ma spécialité ORL, finalement, je pense que j'avais toujours dans l'idée de m'occuper de la voix, des cordes vocales. Et j'ai eu raison parce que maintenant, quand j'ai face à moi des artistes, des chanteurs, des musiciens, je me sens assez à l'aise, j'arrive à me fondre dans leur domaine, dans leur monde. Donc je suis vraiment très contente d'avoir des patients chanteurs et musiciens.
Est-ce que vous voulez bien revenir sur l'un de vos premiers souvenirs marquants avec la voix ?
Alors, le premier souvenir marquant avec la voix, c'est au conservatoire où je me souviens, donc j'adorais aller au chant choral. C'était quelque chose que j'adorais aller à la chorale. Je m'éclatais, je chantais à tue-tête, je répétais à la maison, je chantais à tue-tête. Et je me souviens que quand on allait au solfège et que là, on devait chanter toute seule, à côté du piano de la professeure, derrière son pipit devant tout le monde, je me souviens que j'avais plus qu'un tout petit filet de voix, je chantais faux, j'avais perdu tous mes moyens. Et je pense que c'est le premier souvenir qui me fait me dire que vraiment pour chanter, il faut être à l'aise, il faut oublier tout ce qu'on a devant nous et vraiment être très relax.
Est-ce que vous avez trouvé le moyen d'être relax?
Alors maintenant, je suis beaucoup plus relax. Après, j'ai la chance d'avoir toujours été assez à l'aise avec ma voix. J'ai toujours parlé fort, ça m'a servi quand j'ai fait aussi du théâtre. J'avais du mal à comprendre mes amis qui étaient très introvertis, qui avaient une voix assez fluette, qui n'arrivaient pas à projeter leur voix. Moi, c'était presque le contraire. On me demandait un peu de parler moins fort. Donc oui, maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise avec ma voix et j'arrive même à parler un peu moins fort.
Moi aussi, c'était la demande quand j'étais enfant. Parle moins fort, voilà. Et parle moins aigu.
Bon, bah, pareil.
Est-ce que vous voulez bien revenir sur votre formation, sur votre parcours ?
J'ai fait médecine. Au terme de la sixième année, il faut qu'on choisisse sa spécialité. Et moi, j'ai choisi de faire de l'ORL parce que c'est une spécialité qui est très complète. C'est une spécialité médicale, chirurgicale, qu'on peut exercer à l'hôpital, en ville. Et c'est assez rapidement que je me suis beaucoup intéressée aux problèmes de la voix, que j'ai commencé à suivre mes seniors, mes maîtres qui faisaient beaucoup de voix, de cordes vocales, d'exploration du larynx. Et donc, j'ai petit à petit, pendant mon cursus d'interne et de chef de clinique, toujours choisi la voix qui me permettait justement de m'intéresser à la voix. Finalement, maintenant, on n'a plus besoin pour être laryngologiste de passer un diplôme particulier. On n'a plus besoin de passer le diplôme de phoniatrie. Donc, je suis naturellement devenue plutôt laryngologiste, qui est le L de ORL.
Pour en venir au vif du sujet, le sujet qu'attendent les auditeurs chanteurs, bon, il n'y a pas que des chanteurs, mais principalement, quels conseils donneriez-vous aux chanteurs pour prévenir les troubles de la voix et maintenir une voix saine, en bonne santé ?
Alors, il y a beaucoup de conseils que j'aimerais leur donner. Souvent, je constate que les chanteurs, lorsqu'ils chantent, font très attention à la façon dont ils chantent, à leur technique vocale qu'ils ont apprise. Mais finalement, c'est à des moments où leur voix leur échappe, ou alors lorsqu'ils sont dans des situations de loisirs avec des amis, que là, ils font plus du tout attention au son qu'ils créent, qu'ils produisent. Donc, typiquement, c'est à des terrasses de café près d'une route où il y a beaucoup de bruit, dans un karaoké, même parler avec une copine dans un environnement bruyant.
Cet après-midi, là, j'ai amené ma fille à l'aquarium de Paris. Oui. Il y avait un bon niveau sonore. Et c'est vrai, le niveau sonore affecte la voix.
Et là, en fait, les chanteurs font plus du tout attention à leur voix. Et c'est souvent dans ces situations-là qu'ils s'abîment les cordes vocales.
Moi, c'est vrai que je trouve que c'est le plus difficile. Parfois, on a envie de sortir, de voir du monde. Et puis, je me dis, ah non, mais là, je commence à fatiguer vocalement. J'ai déjà beaucoup parlé. Ben, j'irai pas à la soirée ce soir, par exemple, parce que je veux pas abîmer la voix.
Oui, c'est ça, il faut s'écouter. Alors, c'est difficile à dire, mais souvent, je dis à mes patients, si vous êtes un grand sportif et que vous avez beaucoup couru, si vous avez mal aux genoux, vous êtes fatigué, bah, vous allez vous reposer. Et là, c'est la même chose. C'est difficile, des fois, d'annuler un dîner dans un grand restaurant, mais il faut savoir soit s'adapter, soit annuler le dîner, le reporter.
Donc, ça joue quand même sur le lien social.
Ouais, bien entendu. Ouais, il y a votre instrument et dont il faut prendre soin. Donc parfois, ouais, c'est sûr que ça joue sur la vie sociale.
Qu'est-ce que vous conseillez en cas d'inflammation ?
Alors, en cas d'inflammation, donc de rhume, de sensation de fatigue vocale, toujours, c'est dès que vous pouvez le repos vocal. Donc c'est pareil, si vous devez chanter, bon, et si vous pouvez chanter, surtout chanter, mais ensuite, essayez de respecter un repos vocal, essayez de ne plus parler dès que vous pouvez ne plus parler. Après, c'est des choses qui sont très basiques, mais bien boire, parce que des cordes vocales inflammées, c'est des cordes vocales qui sécrètent beaucoup de mucus. Et donc, il faut bien boire pour que ce mucus il soit plus fluide et qu'il ne colle pas à vos cordes et que vous ayez toujours envie de faire ça, qui est très mauvais pour les cordes vocales. Les nébulisations sont pas mal aussi, de mettre son nez au-dessus d'un bol d'eau chaude avec un torchon sur la tête, soit avec une petite machine, parce que mécaniquement, ça apporte des gouttelettes d'eau sur vos cordes vocales, ça les lubrifie. Au niveau médicamenteux, bien sûr, on essaye toujours d'éviter au maximum les médicaments. Moi, je privilégie en premier abord les anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme l'ibuprofène ou le Surgam. Alors, il faut faire attention à l'estomac, parce que ça peut faire mal à l'estomac. Et puis vraiment, en dernier recours, si vraiment vous avez l'audition de votre vie à passer alors que vous êtes enrhumé, on peut toujours prescrire des doses de corticoïdes, comme ça, une fois le matin, pour aider à passer le cap. Mais il faut vraiment réserver les corticoïdes à des situations vraiment exceptionnelles.
Est-ce qu'il y a des chanteurs qui conseillent les pastilles parce qu'ils disent que ça fait beaucoup d'églutières ?
Alors, les pastilles, en fait, c'est un bon ami pour tout ce qui est douleur pharyngée, type angine. Il y a des pastilles où il y a des anesthésiants dedans. Oui. Donc, c'est sûr que ça fait du bien parce que ça anesthésie le fond de la gorge. Mais finalement, quand on déglutit, tout ce qu'on avale ne va pas sur les cordes vocales parce que sinon, on ferait une fausse route. Donc finalement la pastille c'est un faux ami. Après, enfin c'est, disons que c'est pas mauvais, mais c'est pas ça qui va apporter un bienfait notable. Il y a une étude qui a été menée sur la qualité de la voix avec une pastille, je pense au sucre, versus une pastille au thym. Et alors que les données objectives de la voix n'étaient pas du tout changées, les données subjectives, c'est-à-dire le ressenti du patient, son confort, son bien-être, étaient nettement améliorées. Donc finalement, si ça peut faire du bien de sucer une pastille au thym, moi je pense que vous pouvez y aller.
Je crois que vous conseillez aussi de chanter sous la douche pour hydrater les cordes vocales.
Oui, chanter sous la douche, c'est l'équivalent de la nébulisation. C'est-à-dire que c'est un peu une ambiance hammam, l'air est très humide. En plus, il y a une bonne acoustique. Donc c'est très bon pour les cordes vocales de s'échauffer ou de chanter sous la douche.
Ça fait gain de temps le matin, voilà, ces vocalises. Est-ce qu'il y a d'autres aspects que vous voulez nous recommander pour maintenir une bonne hygiène vocale, une voix saine?
Il faut surtout respecter vraiment, comme un sportif, bien dormir, essayer de bien dormir avant un concert, avant une performance, beaucoup boire. C'est très important parce qu'il faut, je dis souvent à mes patients, les cordes vocales, c'est un peu comme les yeux ou la bouche. C'est-à-dire quand on a les yeux secs ou la bouche sèche, ben, on a les yeux qui grattent, on parle moins bien. Donc les cordes vocales, on le voit, hein, il y a des patients qui ont des cordes vocales très sèches. Elles sont moins lubrifiées, elles frottent plus et il y a un inconfort qui apparaît.
Justement, je voulais parler de la salive.
Oui.
Alors j'en avais parlé avec Anne Silla dans son épisode. Elle racontait que beaucoup de chanteuses qu'elle connaissait se collaient du Gelovox ou du chewing-gum au niveau du palais pour sécréter plus de salive. Céline Dion, elle disait qu'elle mangeait des gâteaux au sel pour sécréter plus de salive.
Oui.
Et à l'inverse, il y a des personnes qui produisent trop de salive. Et je le vois notamment en cours, ils sont gênés puisque ça va influer sur le tempo, la chanson qu'ils pourront chanter, puisqu'ils vont être obligés de déglutir. Qu'est-ce que vous voulez nous dire sur la salive ?
Alors la salive, c'est vrai qu'elle est essentielle à la parole et au chant parce qu'elle lubrifie les lèvres, la langue, l'intérieur des joues, etc. Donc c'est vrai que par exemple, quand on est stressé, on peut avoir la bouche sèche. Donc je comprends tout à fait les chanteuses qui se collent quelque chose dans la bouche. C'est vrai qu'il existe des petits comprimés, moi j'ai Xylimeld en tête, pour favoriser la salivation. Après, à contrario, quand on a trop de salive, finalement c'est extrêmement rare de produire trop de salive. Il y a que des cas extrêmes. Alors, la prise de certains médicaments peut, c'est pour ça qu'il faut faire attention aux médicaments qu'on prend. Ça peut faire produire plus de salive que la normale. Des inflammations dentaires aussi. Il faut, si vous trouvez que vous avez vraiment beaucoup de salive, n'hésitez pas à aller chez le dentiste. Et après, bon, il y a des maladies comme la rage aussi qui font beaucoup saliver. Mais avoir trop de salive, finalement, malheureusement, il faut essayer de la dompter et de vivre avec. Souvent, les patients me disent « j'ai beaucoup trop de mucus, je suis gênée, je me noie dans mes mucosités ». Il faut essayer d'accepter le fait que notre gorge est tout le temps dans l'humidité, nos cordes vocales aussi, qu'on produit tous 1,5 litre de salive par jour, qu'on doit déglutir 2000 fois. Et finalement, la gestion de la salive doit faire partie du travail du chanteur.
Est-ce qu'il y aurait des choses à aller voir, s'il n'y a pas des carences ou s'il n'y a pas des vitamines, des compléments alimentaires ou...
Vraiment, la chose qui peut favoriser les problèmes de salive, c'est tout ce qui est dentaire. Les caries, les gingivites, tout ça. Donc, c'est vraiment aller voir votre dentiste pour vous assurer que vous avez un bon état bucco-dentaire.
Moi, par exemple, je me demandais si c'était pas héréditaire parce que ma mère aussi est chanteuse. Mmh. Et elle a beaucoup, beaucoup de salive. Et moi aussi, j'ai vraiment beaucoup de salive, mais depuis toujours. Et c'est vrai que parfois, sur certains morceaux...
Ça vous gêne beaucoup.
Oui, sur certains morceaux, c'est gênant. Mais après, c'est pas une période plus qu'une autre.
C'est tout le temps, vous êtes gênée par votre salive.
Mmh. Ouais, sur certains morceaux plus que d'autres.
Ah, sur certains
morceaux
plus que
d'autres. Parce que si j'ai pas de pause pour déglutir.
Ah oui, c'est ça. Il faut, à la limite, vous avez les respirations et les déglutitions à marquer sur la partition.
C'est sur les respirations, c'est surtout les déglutitions. Okay. Et j'ai quelques élèves pour qui c'est le cas aussi. Ils me disent, non mais là, c'est pas la respiration, c'est je voulais déglutir, j'en pouvais plus.
Ah oui, d'accord. Mm. Eh ben, malheureusement, il y a, alors, les patients bavent, mais à cause de maladies neurologiques, moi, je leur assèche les glandes salivaires en leur injectant un produit dans les glandes pour les assécher. Mais ça, c'est vraiment des cas extrêmes. Donc, bien sûr, je ferai jamais ça, ni à vous, ni aux autres chanteurs.
Est-ce qu'il y a des solutions qui sont disponibles pour les personnes qui n'ont pas assez de salive?
Qui n'ont pas assez de salive, bah, je pense à Véronique Sanson qui a des problèmes de salive parce qu'elle a eu de la radiothérapie. Et elle dit qu'elle a toujours un chewing-gum dans la bouche. Et effectivement, c'est ce que nous disent la plupart des patients. Il existe des sprays pour lubrifier, des petits comprimés, mais finalement, c'est le système D qui l'emporte avec soit le chewing-gum, soit un noyau de cerise qui fait saliver, ou soit toujours la petite bouteille d'eau ou un brumisateur pas très loin, parce que en fait finalement dans tout ce qui est médicamenteux, on se rend compte que ça modifie la texture de la salive ou de l'intérieur de la bouche qui est très gélatineux et c'est très inconfortable.
Qu'est-ce que vous pensez notamment en conseil soit en entretien des gargarismes à l'huile de sésame tiède ou à l'huile de coco?
Les gargarismes, c'est un peu comme déglutir ou les pastilles, ça reste au fond de la gorge. Après tout, vraiment tout ce qui ne peut pas faire de mal et qui peut apporter un confort, comme porter une écharpe par exemple, scientifiquement, ça n'apporte rien, mais la chaleur, la douceur, le fait de sentir ses cordes protégées, si ça peut faire du bien, bien sûr, mais faites-le tout le temps. En revanche, par exemple, pour les huiles essentielles, je mets un peu en garde mes patients parce que les huiles essentielles, certaines peuvent être allergisantes, vous pouvez être allergique à des huiles essentielles. Donc, pour les nébulisations, par exemple, on demande quelles huiles essentielles je mets dedans. Bah, que de l'eau, ça suffit. Parce que si vous faites une allergie à une huile essentielle, c'est dommage, ça va vous irriter davantage. Du sérum physiologique, donc de l'eau légèrement salée, comme des larmes artificielles.
Et même les gargarismes à l'aspégique, est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez ou c'est... Il n'y a pas plus de vertu au final qu'à l'huile de coco ou à l'huile de sésame?
Je les conseille chez les patients qui font beaucoup d'aphte. Les bains de bouche à l'aspirine, à l'aspégique, c'est un bon traitement si vous avez tendance à faire beaucoup d'aphte.
Mmh. Voilà. Donc, du coup, pour les aphtes, ce qui marche bien aussi, c'est le gros sel, les gargarismes
oui,
gros sel.
Oui, c'est vrai. En changeant, je pense, le pH, ça vous fait du bien.
Tout à l'heure, vous parliez des médicaments, de faire attention aux médicaments. Est-ce que vous voulez bien nous en dire plus? Parce que moi, je vois, j'ai beaucoup de chanteurs qui prennent au printemps des médicaments pour les allergies saisonnières. Comment est-ce que les médicaments peuvent parfois abîmer la voix sans qu'on s'en rende compte?
Alors, on sait que les antihistaminiques, donc les médicaments type Aerius qu'on prend contre les allergies, au long cours, mais vraiment au long cours, ça peut assécher les cordes vocales. Quand on est allergique, on peut aussi prendre des sprays nasaux pour assécher le nez et mieux respirer. Et c'est pareil, ce qui assèche le nez, ça peut assécher les cordes vocales. Il y a aussi les patients asthmatiques, il faut vraiment leur poser la question du traitement parce que les corticoïdes inhalés, pas la ventoline mais tous les autres
Symbicore
médicaments
et les choses
exactement,
comme ça.
Ça peut engendrer une dysphonie, donc une modification de la voix par amyotrophie des cordes vocales, c'est-à-dire que les cordes vocales elles fondent, le muscle perd de son volume. Donc c'est vraiment quelque chose pour les médecins à poser ou même les patients à essayer de voir est-ce que mes problèmes de voix sont apparus de manière à peu près synchrone avec la prise d'un nouveau médicament inhalé. Et puis il y a aussi des médicaments contre l'acné qui assèchent énormément. Pour les chanteurs, si on peut éviter ou éviter de le prendre au long cours, tous les médicaments très asséchants contre l'acné, il vaut mieux éviter. Et puis, il y a aussi tout ce qui est hormonal pour les femmes, la pilule. Il y a certaines chanteuses, notamment les chanteuses lyriques qui vont très aiguës, qui se rendent véritablement compte qu'elles perdent plusieurs tonalités dans les aigus quand elles changent de pilule, qu'elles changent pour une progestative versus une œstroprogestative ou qu'elles changent de stérilet. Donc, c'est aussi important d'essayer de noter avec votre nouveau traitement hormonaux si votre voix s'est modifiée.
Donc vraiment de tenir un genre de journal de sa voix.
Exactement.
Et de ses habitudes.
Tout à fait.
Et quels sont les facteurs auxquels on ne pense pas toujours, en dehors des médicaments, qui peuvent endommager la voix?
Alors, il y a un grand ennemi qui est le reflux gastrique ou reflux pharyngo-laryngé. On a tous un moment dans notre vie du reflux. On sait que ça a été prouvé que c'est pas parce qu'on ne sent pas les remontées acides qu'on n'a pas de reflux. J'ai beaucoup de patients que j'examine, ils ont la gorge très irritée, mais ils me disent « mais moi je ne ressens pas du tout d'acidité remontée » parce qu'on sait qu'il y a plusieurs types de reflux. Il y a le reflux gazeux, il y a le reflux basique. Donc c'est pas parce que vous n'avez pas d'acidité que vous n'avez pas de remontée acide dans la gorge. Et pourquoi le reflux est délétère pour la voix? C'est parce que déjà il irrite toute la sphère pharyngo-laryngée et en plus il nous fait faire ce fameux tic de émage pendant lequel nos cordes se frottent beaucoup. Et en fait, le faire 10, 20, 100 fois par jour, c'est très mauvais pour les cordes. Et puis le reflux aussi, il fait sécréter du mucus épais qui gêne beaucoup et qui nous donne ce fameux chat dans la gorge, là, cette sensation de mucosité. Donc il y a le reflux qui gêne, bah bien sûr le tabac, mais ça tout le monde sait.
Oui, le tabac, l'alcool, je pense que
voilà, c'est les mauvais amis.
Même si l'alcool, il y a encore des personnes qui en prennent avant les concerts en rituel
pour se donner du courage. Oui. Après, il y a aussi beaucoup de chanteurs qui veulent pas arrêter le tabac pour ne pas perdre leur identité vocale aussi.
Complètement.
Tout ce qui est effort à glotte fermée, on appelle la manœuvre de Valsalva. C'est quelque chose qu'il faut éviter pour la voix parce que on fait ça, les cordes vocales se serrent beaucoup. Et donc, déménager, mais aussi faire du sport, le tennis ou faire un sport de l'haltérophilie, il faut éviter. Tout ce qui est trouble de la mâchoire n'aura pas un impact direct sur la voix, sur les cordes vocales, mais en revanche, ça a un impact sur l'ouverture de la mâchoire. On doit être très souple de la mâchoire, notamment pour chanter dans les aigus. Le fait, par exemple, de bruxer, de serrer beaucoup les dents la nuit, ça crée des tensions au niveau des muscles qui ferment la mâchoire et ça peut gêner dans le chant.
Tout à l'heure, vous parliez des pastilles au thym, les infusions, que ce soit à l'érysium ou au thym, qu'est-ce que vous en pensez ?
Ce qui est bien dans l'infusion, c'est de boire. Bien boire, boire chaud parce que la chaleur, ça détend les muscles. Comme je vous disais, le thym en soi, objectivement, n'a pas d'effet délétère ou bénéfique, mais le patient ressent un confort. Donc, super, buvez des tisanes au thym. L'érysium, il y a des dérivés soufrés dans cette plante. Le soufre, on l'utilise beaucoup dans le traitement des rhinites chroniques. Je pense à l'actisoufre, qui est un spray qu'on utilise beaucoup dans le rhume. Donc, c'est pareil. Si on peut utiliser l'érysium pour ses activités fluidifiantes, bah pourquoi pas? Buvez des infusions.
Moi, ce que j'aimais beaucoup au niveau du soufre, c'était les ampoules de soufre, mais à mettre dans la corne pour le lavage de nez. Je trouve que ça fonctionne très, très bien. Enfin, au quotidien.
Ouais, c'est très bien. Et les lavages de nez, c'est très bien aussi. Parce que le fait de laver son nez donc avec soit du sérum physiologique, soit avec du thym, de l'érysium, ça enlève tout ce qui est polluant ou allergène dans le nez. Limite, c'est presque mieux de le faire le soir, parce que comme ça, quand vous vous couchez, vous avez le nez propre, et ça diminue la sécrétion de muqueuse, voire les allergies.
Quand j'ai rien, je le fais juste à l'eau, et j'ai quand même l'impression que ça nettoie. Est-ce que c'est une impression ou est-ce que c'est vrai?
De vous nettoyer le nez à l'eau?
Avec la corne.
Ah oui, bien sûr. L'action mécanique de lavage, c'est très bien. Une bonne hygiène.
Et qu'est-ce que vous pensez du gratte-langue pour les chanteurs?
Alors, le gratte-langue, je ne savais pas que les chanteurs aimaient se gratter la langue. Les chanteurs aiment bien se gratter la langue.
Bah, le gratte-langue ayurvédique est souvent conseillé pour les chanteurs aussi.
D'accord.
Pour enlever toutes les porosités.
D'accord, alors le gratte-langue, c'est très bon pour l'hygiène bucco-dentaire. Et comme l'hygiène bucco-dentaire, c'est essentiel chez les chanteurs, je dis oui au gratte-langue.
D'ailleurs, moi, je voyais tout le temps ma professeure de chant quand j'étais adolescente, qui passait son temps à susauter des pastilles sucrées. Et j'ai appris vers l'âge de 18-19 ans que les chanteurs faisaient partie des personnes qui avaient le plus de caries. M'a-t-on dit, à cause de ces pastilles et du miel. Donc, j'ai complètement arrêté les pastilles et le miel. Est-ce que vos patients ont plus de caries?
Eh bien, écoutez, je ne crois pas, fort heureusement, parce que je pense que si maintenant on fait des pastilles sans sucre. Mais c'est vrai que beaucoup sucent des pastilles au miel et je leur dirais, vous avez raison.
Ça m'avait...
Miel, c'est très bon, mais il faut faire attention, c'est hyper sucré.
Ah, c'est que moi, prenez toute la journée, c'était...
Ah ouais, toute la journée, c'est hyper mauvais d'avoir les dents toujours dans un environnement sucré.
Je sais que les pâtissiers aussi, rien que par l'inhalation du sucre,
ont
des caries.
Ouais. Les pauvres.
Oui. Et quel peut être l'impact sur la voix d'un port de gouttière ou d'un appareil dentaire pour les chanteurs?
Alors, les gouttières type Invisalign ou tout ce qui est traitement orthodontique, ça gêne. Ça crée une gêne dans l'appui de la langue, je pense aux Invisalign. Et tout ce qui est port de l'appareil dentaire, alors en plus, quand c'est un faux palais, c'est encore pire parce que la langue ne peut pas se coller au palais. Donc vraiment, essayez vraiment de peser le pour et le contre quand vous êtes chanteur sur un traitement orthodontique. Et au-delà de ça, j'ai vu des chanteurs qui se sont fait carrément opérer de la mâchoire, de la mandibule, pour avoir une meilleure avancée, pour avoir des résonateurs plus larges. Et en fait, ils se sont perdus, ils savaient plus où mettre leur langue, ils savaient plus comment placer leur voile du palais. Donc c'est quelque chose qu'ils ont beaucoup regretté. Donc surtout, en tant que chanteur, tout ce qui est intervention sur vos dents ou sur votre mâchoire, parlez-en vraiment beaucoup à votre chirurgien avant.
Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces opérations? Puisque moi, je me rappelle, on m'avait mesuré mon ouverture. On m'avait dit, ah, si vous êtes chanteuse, faut mesurer, faut regarder l'ouverture. Qu'est-ce que vous pensez des opérations pour les gens qui n'ont pas une très grande mâchoire, une très grande ouverture de bouche?
Je pense qu'il faut vraiment éviter tout ce type, surtout à l'âge adulte, tout ce type de chirurgie qui modifie toute votre anatomie de la sphère ORL. En fait, quand on est adulte, on n'est plus... Chez les enfants, ça va parce que le cerveau est encore très plastique et les enfants s'habituent à un nouveau placement de langue, à la nouvelle façon de parler. Mais en fait, c'est vraiment pas rare que les adultes me viennent me disent « Je ne sais plus comment mettre mes dents en bas. » J'ai toujours l'impression que je cherche un peu comment caler mes dents. J'ai une patiente qui me disait « Ma langue, elle zozotait » et elle me disait « Je sais plus où mettre ma langue. » Donc vraiment, je pense qu'il faut éviter à l'âge adulte tout ce type de chirurgie d'avancée mandibulaire.
Et pour les cas, par exemple, de déduction, qu'est-ce que vous conseillez?
Après, il faut voir pourquoi est-ce que y a cette déduction. Est-ce que c'est un problème d'articulation temporomandibulaire? Des fois, c'est des ouvertures de bouche, on dit en chicane. Ça, c'est dû au fait que le ménisque qui est dans l'articulation est abîmé. Et souvent, il est abîmé par un bruxisme. C'est intéressant chez les chanteurs de rechercher un bruxisme. Donc, bruxer, c'est serrer les dents de manière anormale la nuit ou le jour, parce que ça abîme à long terme l'articulation temporomandibulaire et ça limite l'ouverture buccale et en plus ça abîme les dents.
Donc ça c'est le dentiste qui peut...
C'est le dentiste ou c'est l'ORL ou il faut en parler à votre médecin si vous êtes chanteur et que vous sentez que vous serrez les dents la nuit et que ça peut gêner à l'ouverture de votre bouche.
Alors, je savais pas qu'on pouvait s'en rendre compte la nuit qu'on serrait les dents.
Oui, on s'en rend compte parce que déjà on peut casser des dents. Souvent, le matin, on est très tendu et on a la mâchoire qui craque, on a envie de se masser pour vraiment, on a l'impression d'avoir serré les dents toute la nuit. Donc, si, et souvent, le premier symptôme, c'est les maux de tête. Se réveiller le matin en ayant hyper mal à la tête, ça veut sûrement dire que vous avez serré les dents toute la nuit.
Et quels peuvent être les effets d'une rhinoplastie sur la voix?
Alors, Dieu merci, une rhinoplastie à visée esthétique simple n'a pas de retentissement sur le timbre de la voix, qui est pas évident en soi parce qu'on peut se dire que le nez, c'est un des résonateurs et donc de modifier sa forme, ça pourrait changer le timbre de la voix. Mais non, parce que finalement, de changer la forme du nez, on a un impact juste sur finalement les os qui entourent le nez et pas sur l'intérieur qui ressemble davantage à une grande grotte. Par contre, on sait que les patients qui ont par exemple des polypes dans le nez ou qui ont une déviation de la cloison nasale responsable d'une obstruction nasale, ils ont du mal à respirer par le nez et souvent ça s'entend, hein, ils ont une voix un peu nasonnée. Eh bien, ils auront tireront des bénéfices à se faire opérer du nez pour déboucher leur nez. Donc là vraiment à visée fonctionnelle parce qu'ils auront une voix beaucoup plus claire et beaucoup moins nasonnée.
J'avais une question aussi par rapport à l'ablation des amygdales.
Oui.
Pour les chanteurs, est-ce que cela peut avoir une répercussion?
Oui, enlever des grosses amygdales. Déjà, quand on a des grosses amygdales, on l'entend hein, souvent, la voix, elle est un peu pharyngée, comme ça. D'enlever les amygdales chez ce type de patient, ça peut faire du bien. Alors, il faut les prévenir que ça va changer leur timbre. Mais en fait, on se rend compte que très rapidement, ils se font à leur nouveau timbre, qui est davantage clair, aigu, donc ça leur plaît beaucoup plus. Maintenant, si vous êtes chanteur et que vous craignez de vous faire opérer les amygdales pour d'autres raisons, par exemple pour la douleur que ça engendre sur plusieurs semaines, on pratique maintenant des ablations partielles des amygdales ou alors ce qu'on appelle de la radiofréquence, c'est-à-dire qu'on va brûler certaines parties des amygdales pour les rendre plus petites, éviter d'avoir des angines à répétition. On préserve davantage l'anatomie.
Très intéressant. Est-ce que ça se fait toujours aussi le laser ?
Oui, ça peut se faire. C'est un laser à fibres qui permet de fibroser les amygdales.
D'accord. quel est le rôle que vous jouez dans l'accompagnement des chanteurs tout au long de leur carrière ?
Eh bien, le rôle du médecin ORL, c'est souvent de rassurer. D'ailleurs, c'est l'un des principaux motifs de consultation. Docteur, je sens que je suis un peu fatigable, que ma voix me lâche un peu en ce moment. Je pense que c'est rien, mais je voulais m'assurer que mes cordes sont impeccables. Bah, bien sûr, dans la majorité des cas, je les rassure. Et ne serait-ce que ça, de rassurer finalement, je me rends compte qu'une fois que je leur dis vos cordes vocales sont bien, ils sont prêts à partir, ils prennent leur sac, ils sont, c'est juste ce qu'ils voulaient savoir.
Que les chanteurs viennent davantage à l'approche d'un grand concert ou d'un enregistrement d'album.
Oui, oui, bien sûr. Pour être sûr qu'ils vont pouvoir assurer, ils aiment bien être sûr que leur instrument est d'attaque. Donc, rassurer, ça fait partie du grand rôle du médecin. Et bien sûr, après, bon, bah, c'est lorsque ça va pas, lorsqu'il y a des lésions, lorsqu'on voit qu'il y a un mauvais comportement vocal, ben, on est là pour les accompagner, pour les diriger vers des coachs, des orthophonistes qui vont les aider à les prendre en charge plus fréquemment que nous, finalement, on les voit une, deux fois par an, les patients. Heureusement, on a des orthophonistes, souvent sur qui s'appuyer, qui les voient de manière hebdomadaire et qui vont vraiment les aider au jour le jour. Parce que le chanteur, comme un sportif, il a besoin d'un professeur de chant. Mais c'est pas parce qu'il a un très bon professeur de chant qu'il a pas besoin à un moment de rééducation orthophonique. C'est tout à fait complémentaire. Et d'ailleurs, souvent, des chanteurs aguerris, quand je leur dis « il va falloir que vous fassiez de la rééducation », ils sourient un peu en disant « bon, j'ai quand même eu les meilleurs profs de chant en France ». Et en fait, ils reviennent, ils disent « mais j'aurais dû le faire depuis tellement longtemps, ma rééducation orthophonique, j'ai appris plein de trucs ». Après, souvent, ils ont besoin de kiné pour la posture, pour la mâchoire, pour le dos. Donc, c'est très bien d'avoir quelques correspondants qu'on apprécie et surtout avec qui on communique beaucoup. Parce que c'est ça, il faut s'écrire des lettres, il faut s'écrire des mails, se donner des nouvelles. C'est vraiment comme ça qu'on arrive à bien prendre en charge un patient.
Est-ce que vous voulez nous donner les noms des personnes avec qui vous aimez travailler, réorienter vos patients sur Paris ?
J'ai des orthophonistes chouchous, j'ai Véronique et Christine Pina, j'ai Faustine Dubedou, j'ai Aline Sette, Mathilde Descamps. Donc tout ça, c'est vraiment... Bah, bien sûr, j'en oublie et c'est dommage. C'est vraiment des partenaires essentiels dans mon travail. Et en plus, ce que j'apprécie énormément, c'est que je sais que quand je leur envoie des patients, elles se débrouillent toujours pour se libérer, libérer un créneau. Et ça, c'est essentiel pour les chanteurs. Souvent, ils ont des concerts, ils ont des échéances à court terme. Donc, ils ont besoin d'être pris en charge rapidement.
Est-ce qu'il y a des anecdotes que vous avez envie de nous raconter par rapport à des histoires que vous avez vécues avec vos patients chanteurs ?
Avec mes patients chanteurs, non, il y a une anecdote que j'adore qui est au cabinet quand je reçois un chanteur lyrique. En fait, dans mon bilan, je fais systématiquement, quel que soit le patient, je fais chanter Joyeux anniversaire dans les enregistrements de la voix parce que c'est une chanson qui est très bien et qui permet de voir comment le patient monte quand il fait Joyeux anniversaire. Donc, est-ce qu'il passe en voix de tête ou pas ? Et donc, bah, quand j'ai des chanteurs lyriques, ils le chantent à la façon lyrique, donc ça, c'est très sonore. Et quand je reçois le patient d'après qui a entendu le patient précédent chanter Joyeux anniversaire, ils sont terrorisés et ils me disent « il va falloir que je chante comme le patient avant moi ».
Je dois me fabriquer une voix en deux secondes.
Ouais, c'est ça. Donc je leur dis « mais bien sûr, vous allez chanter comme ça ». C'est très amusant la pression qu'ils se mettent.
Oui. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer comment se déroulent les bilans ?
Alors, quand un patient vient pour un bilan vocal, déjà, ça dure une demi-heure. Je pense que c'est vraiment nécessaire que ce soit assez long. Dans les 30 minutes, il y a 15 minutes d'interrogatoire environ. Donc, je pose, c'est vraiment un interrogatoire...
L'anamnèse.
Exactement. Un interrogatoire sur comment ça a commencé. Mais c'est vraiment des questions assez basiques. Qu'est-ce que votre voix vous empêche de faire ? Qu'est-ce que vous arriviez à chanter que vous n'arrivez plus à chanter ? Qu'est-ce que vous chantez comme type de musique ? Quelle est la fréquence à laquelle vous chantez ? Dans quelle salle ? Dans quel groupe ? Voilà, si les professeurs, je veux savoir s'ils parlent beaucoup, s'ils montrent beaucoup l'exemple à ses élèves.
Est-ce que c'est une des disciplines que vous avez le plus, les professeurs ?
Les professeurs de chant, j'en ai beaucoup. Et justement, c'est lorsqu'ils parlent qui sont fatigués, ils me disent je parle beaucoup dans un environnement parfois bruyant ou dans des salles un peu mal insonorisées et c'est là qu'ils ressentent la fatigabilité. Donc cet interrogatoire, bien sûr, il me sert à cerner le patient. Je connais bien sa vie professionnelle au bout de 15 minutes. Et puis surtout, je l'écoute. Parce que, bon, soit le patient n'a que des troubles de la voix chantée, auquel cas sa voix parlée est normale, mais parfois la voix parlée est anormale également, elle est un peu rauque, je regarde comment il respire, est-ce qu'il est finalement assez essoufflé quand il me parle, est-ce qu'il se tient bien, est-ce qu'il a la bouche sèche, est-ce qu'il fait... Donc tout ça, c'est des petits indices déjà que je note.
Vous êtes dans l'observation.
Exactement. Et ensuite, au bout de 15 minutes, donc on fait le bilan vocal, à proprement parler, je mets un micro au patient et là, je l'enregistre. J'enregistre sa voix spontanée, donc je lui demande de me raconter ce qu'il va faire après, souvent. J'essaye de voir s'il arrive à monter en voix de tête, donc je lui fais faire « Ah !» Je lui fais chanter « Joyeux anniversaire ». Quand ce sont des patients chanteurs, j'adore leur faire chanter quelque chose qu'ils aiment chanter. Alors souvent, ils ont le trac, mais en fait, je leur dis, moi, c'est juste parce que j'aime bien vous écouter chanter. Et puis, pour voir ce qu'ils chantent, on chante pas la même chose quand on chante de la musique tzigane ou quand on chante de la variété française. Ou donc, moi, j'aime bien savoir ce qu'ils aiment chanter. Et ensuite, on fait les mesures objectives. Donc, les mesures objectives, les deux plus importantes, c'est la mesure du temps maximum de phonation. C'est tout simplement que je vous demande de tenir un « ah » le plus longtemps possible. C'est très révélateur sur le souffle, sur la fermeture des cordes vocales. Normalement, on doit tenir très facilement 15 secondes quand on est un chanteur en bonne santé. Et un chanteur qui tient moins de 10 secondes, déjà, ça me met la puce à l'oreille sur la respiration ou l'accolement des cordes. Et ensuite, on fait ce qu'on appelle un phonétogramme. Un phonétogramme, c'est comme une photo de l'étendue vocale. Donc, je demande au patient de me chanter de la note la plus grave à la note la plus aiguë qu'il peut chanter, comme une gamme. Il chante en deux parties. La première partie, c'est voix piano. Et ensuite, c'est la voix forte. Et en fait, ça donne un graphique un peu en forme de cacahuète. Souvent, on me dit, mais il est bien ou il est pas bien, mon phonétogramme? Il n'y a pas de bon ou de mauvais phonétogramme. Il y a le phonétogramme d'aujourd'hui. Et souvent, c'est très bien de le faire quand on est en bonne santé, quand on va bien, parce que il va nous servir ensuite de comparatif avec les phonétogrammes suivants. Donc, c'est très intéressant de faire ce phonétogramme. Je regarde si le patient arrive à monter en voix de tête, s'il est beaucoup plus à l'aise en voix de tête qu'en voix de poitrine, etc. Et à la fin, bien sûr, on regarde les cordes vocales, mais finalement, c'est quelques minutes à la fin. Donc, pour les regarder, je privilégie le laryngoscope rigide. Je pose une caméra qui a la forme d'une paille rigide avec au bout une caméra et une lumière stroboscopique à 90 degrés. Je pose la caméra sur la langue, je vous fais dire et là je regarde vos cordes vocales qui sont vraiment très zoomées, donc je peux voir vraiment avec précision les cordes vocales. Je regarde leurs vibrations parce que ça vraiment c'est essentiel dans l'appréciation de la santé des cordes vocales. Et puis, la lumière stroboscopique me permet de regarder leur ondulation au ralenti. Sinon, on verrait des cordes un peu floues, comme elles vibrent à plusieurs centaines de fois par seconde. Et la lumière stroboscopique me permet de regarder l'ondulation au ralenti, donc de l'analyser. Après, on regarde avec le patient ensemble. Est-ce qu'il y a des lésions? Est-ce qu'il y a, un serrage glottique? Est-ce qu'il y a beaucoup trop de mucosité? Est-ce qu'il y a des signes de reflux? Voilà, on analyse ensemble.
À quelle fréquence est-ce que vous conseillez de venir consulter?
Alors, il n'y a pas de fréquence à conseiller. Il y a les chanteurs qui aiment bien venir tous les ans, même si ça va bien, ça les rassure. Ils font un peu leur contrôle technique, ce que je comprends tout à fait. Et il y a les chanteurs qui, eux, préfèrent venir quand ça va pas. Ils partent du principe que sinon
que
ça va. Voilà. Mais vraiment, il y a deux politiques
Parfois,
et deux sont bien.
La dernière fois, c'est qu'à chaque fois, les examens, c'était par le nez aussi pour les
cordes
vocales.
Beaucoup moins agréable.
Beaucoup moins agréable. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que je suis...
C'est vrai que par le nez, c'est beaucoup moins agréable. On arrive à bien voir, mais personnellement, moi, je privilégie le laryngoscope rigide. Après, je conseille vraiment à tous les chanteurs d'aller voir leurs cordes vocales. Des fois, c'est dommage, j'ai des chanteurs de 60 ans qui découvrent leurs cordes vocales à 60 ans. Et en fait, c'est une révélation. Souvent, c'est un déclic de voir la taille des cordes, leur fragilité, leur blancheur. Ça permet de comprendre comment elles fonctionnent, comment en prendre soin. Donc, si vous êtes chanteur et que vous n'avez pas vu vos cordes vocales, il faut aller les voir.
Oui, c'est vrai que ça donne, ça matérialise en quelque sorte, surtout de repartir avec une photo.
Ouais, exactement, de se dire que c'est pas des cornes, que c'est des lèvres, plutôt des plis, qu'elles sont pas verticales, qu'elles sont horizontales. Des fois, j'ai des chanteurs qui me disent « Ah, mais je pensais pas du tout que c'était ça ». Donc, c'est presque émouvant de voir un chanteur qui découvre ses cornes.
Et quelles sont les lésions les plus courantes qui peuvent affecter les cordes vocales des chanteurs et comment est-ce que vous les traitez chirurgicalement ou non chirurgicalement?
Les lésions les plus courantes, c'est finalement celles qu'on connaît le moins, on connaît les nodules, les polypes, mais il y a les pseudokystes séreux qui sont des lésions davantage type d'ampoule. Alors c'est dans la famille des nodules, mais elles ressemblent vraiment à une petite ampoule. C'est une lésion qui est sur une corde, qui est translucide, ronde, souple. Et c'est une lésion qui embête vraiment les chanteurs parce qu'elle empêche de monter dans les aigus souvent. C'est une lésion qui apparaît souvent après un malmenage vocal ou une session de concert, un chanteur qui est fatigué, qui a chanté, voilà. C'est des lésions qui ont du mal à partir toutes seules. Autant on sait que les nodules, c'est comme des petites indurations sur les cordes vocales. Avec la rééducation orthophonique, les nodules peuvent disparaître grâce à la rééducation. Autant les pseudokystes séreux qu'on voit chez beaucoup de chanteurs, c'est des lésions qui sont quasiment toujours chirurgicales, mais il faut toujours entourer la chirurgie de rééducation orthophonique, donc avant et après intervention, parce qu'on se dit que si cette lésion est là, c'est pas un hasard, c'est qu'à un moment, il y a peut-être eu un mauvais geste vocal. Et puis après l'intervention, pour que le patient rechante avec quelqu'un qui le réassure à côté et surtout qu'il apprenne à rechanter avec son nouveau larynx sans lésion, parce que des fois ça fait des mois qu'il chante avec sa lésion, donc là il faut qu'il réapprenne à chanter sans.
Et qu'il prenne des nouvelles habitudes de placement, de
exactement.
Sensation.
Exactement, tout à fait.
Et est-ce que vous voulez bien nous parler de votre quotidien au bloc opératoire?
Alors, au bloc opératoire, donc on fait ce qu'on appelle des laryngoscopies en suspension. C'est des interventions sous anesthésie générale qui durent une toute petite heure. Le patient est endormi et pour bien voir ses cordes vocales, en fait, je place un tuyau rigide en métal dans sa bouche. Je mets sa tête en flexion. Je suspends. Je suspends, ça veut dire que je mets un système de poulie qui fait que j'ai les deux mains libres. Et ce qui me permet de manipuler mes instruments. Je place mon microscope de manière à bien voir les cordes vocales bien grossies. Et ensuite, alors moi, j'opère quasi exclusivement avec des micro-instruments ou des instruments froids, c'est-à-dire des micro-pinces, des micro-ciseaux, parce que ça me permet d'enlever les lésions sans chauffer la corde vocale. Le laser, qui est une technique comme une autre, hein, qui est très bien aussi. Le laser, ça coupe et ça chauffe en même temps. Alors, ce qui est bien, c'est que ça cautérise, mais c'est une technique que j'affectionne moins. Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'ai appris comme ça avec les micro-instruments. Une fois que j'enlève la lésion, eh bien, le patient se réveille et là, le plus dur commence, c'est le post-opératoire. C'est-à-dire, je lui demande de respecter un repos vocal total de 7 jours. Donc ça demande une organisation, non seulement au niveau professionnel bien sûr, mais aussi au niveau personnel, avec des enfants, même aller faire les courses, hein, c'est compliqué, il faut acheter une ardoise, il faut faire des textos. Il y a des patients qui s'isolent complètement, qui vont dans des hôtels au bord de la mer. Ensuite, au bout de 7 jours, je les revois, ils recommencent à parler avec moi. Et ensuite, je leur dis pendant 3 semaines, vous devez éviter la voix projetée. La voix projetée, c'est la voix qu'on a lors des réunions, la voix qu'on a dans un restaurant, la voix qu'on a au téléphone. Le téléphone, c'est pareil, il faut se méfier du téléphone. On a tendance à beugler dans le téléphone, on parle vraiment très fort. Les zooms, tout ça, faut éviter. Les chanteurs, je leur dis, il faut pas que vous ayez de date pendant 2 mois après l'intervention. Ça veut pas dire qu'ils vont pas rechanter pendant le 2e mois, mais il faut qu'ils rechantent avec l'orthophoniste, avec leur professeur de chant. Mais il ne faut pas qu'ils aient un concert ou des répétitions. Et ça, c'est pour garantir une bonne cicatrisation des cordes vocales.
Quelles sont les attentes en termes de résultats après une chirurgie des cordes vocales?
Souvent, la plainte du chanteur, c'est « j'ai perdu dans mes aigus, j'ai une fatigabilité, je suis plus du tout à l'aise comme avant ». Donc, bien sûr, le but de la chirurgie, c'est de retrouver une aisance qu'il y avait avant l'apparition de la lésion. Après, il faut vraiment qu'on parle de l'identité vocale chez des patients, des chanteurs qui ont, par exemple, un œdème lié au tabac, et qui aime ça et qui en joue, il faut surtout ne pas toucher à cet œdème. On pourrait vider l'œdème pour donner des cordes vocales un peu plus fines, mais bien sûr, je le rassure en lui disant « je ne toucherai pas à l'œdème ». C'est ça qui est important en tant que laryngologiste, c'est de faire la part des choses entre qu'est-ce qui était là bien avant que le patient consulte ou soit gêné, et auquel cas je n'y touche pas, et qu'est-ce qui fait que là, aujourd'hui, maintenant, il est gêné. C'est pas rare qu'il y ait des patients qui aient des lésions congénitales, ça veut dire des kystes, mais qu'ils ont depuis la naissance, ou des petites poches, ou... Et puis, tout d'un coup, ils viennent et ils me disent « là, je suis très gênée », parce qu'ils ont un tout petit polype qui s'est surajouté. Et surtout, il ne faut pas opérer ni le kyste ni la poche, il faut juste enlever le petit polype.
Donc, vous êtes très à l'écoute de la demande du patient chanteur.
Exactement. Chanteur, et même les comédiens, les doubleurs qui ont une rossité de la voix et qui fait leur caractéristique. Si je leur enlève leur nodule et qu'ils n'ont plus la voix rauque, elles vont me maudire. Donc, oui, il faut vraiment parler de ça avec le chanteur. Et souvent, ils me demandent, est-ce que je vais avoir la voix plus aiguë? Est-ce que je vais me retrouver avec une voix de petite fille? Non, bien sûr que non, on touche pas à l'anatomie de la corde. Hein.
Quand vous opérez des gens dont c'est vraiment le métier à 100%, est-ce que ça vous met davantage de la pression ou est-ce que vous êtes dans le même état au bloc opératoire?
Alors, je suis concentrée de la même manière, quel que soit le patient. Parce que je me dis que si le patient a traversé Paris, a vu l'anesthésiste, il est à jeun depuis 6 heures et il dort devant moi dans le froid, c'est qu'il est motivé et qu'il a un problème avec sa voix. Sinon, il serait pas là au bloc opératoire. Donc, chanteur, pas chanteur, des fois c'est un commercial, des fois c'est une femme qui travaille dans un centre commercial qui a besoin de sa voix dans les rayons pour parler aux clients. Enfin bref, donc non, je suis concentrée pareil. En revanche, c'est plutôt l'indication opératoire qui va être différente. Une toute petite lésion de la taille d'un grain de sable va gêner un chanteur et là, je vais lui dire, il faut vous opérer, sinon vous n'allez pas avoir la carrière que vous pourriez avoir. Et la lésion du petit grain de sable d'un boulanger, eh ben peut-être que lui, il en aura rien à faire, ça le gênera pas du tout et là, on posera pas l'indication. Donc c'est vraiment dans l'indication chirurgicale que ça change, qu'on s'adapte aux patients, mais finalement, une fois qu'ils sont au bloc, c'est tous les mêmes.
Et quels sont les risques potentiels ou les complications associées à la chirurgie?
Alors, les complications qu'il peut y avoir, c'est lié à la chirurgie, au geste en lui-même, qui est de mettre un tuyau en fer dans la bouche, de suspendre le patient dans une position assez inconfortable. Donc, c'est-à-dire, il peut y avoir une petite lésion des dents. Donc, il faut toujours demander si les dents, il n'y a pas des dents qui bougent ou s'il n'y a pas des facettes ou des implants ou des douleurs de langue parce que j'ai dû un peu appuyer sur la langue pour bien voir les cordes vocales. Déjà, c'est très rare. Et puis, par exemple, si vous avez mal à la langue, ça passe en quelques jours. L'enjeu post-chirurgical, c'est la cicatrisation des cordes vocales. C'est pour ça qu'on embête un peu le patient avec le repos vocal. Bien sûr, s'il fume, on lui demande d'arrêter de fumer au moins 15 jours avant et après. Parce que la cicatrisation, comme nous tous, comme si on fait une cicatrice sur notre peau, on le voit selon notre partie du corps ou même selon les patients. Il y en a qui cicatrisent, on voit plus rien. Et il y en a, ils ont une cicatrice un peu hypertrophique. Donc, comme on n'a pas de la main mise sur la cicatrisation, on sait... comment faire pour qu'elle se passe bien, éviter le reflux aussi, on donne des anti-reflux, éviter la toux, on donne du sirop contre la toux, et donc pas trop forcer sur la voix. Donc c'est ça les complications, c'est le fait que la cicatrice finalement soit presque plus gênante que la lésion. Mais fort heureusement, quand le patient est bien assidu, bien appliqué, ça n'arrive jamais.
Qu'avez-vous appris sur la voix au fur et à mesure de votre parcours?
J'ai appris qu'elle était fragile. Parce que des toutes petites lésions, ça peut modifier la voix, ça peut considérablement gêner un patient, détériorer sa qualité vocale. J'ai appris à ne pas opérer, à essayer toujours de voir le verre à moitié plein aussi. Parce que il y a beaucoup de patients qui me disent « mais vous entendez, j'ai un petit éraillement ». Et puis, finalement, ils ont des lésions qui sont difficiles à opérer, dont la cicatrisation est un peu incertaine. Donc, je leur explique que si on opère, ça peut être pire. Et finalement, il faut leur dire ça, parce que je leur dis, mais là, en fait, regardez votre voix, bah, on vous entend, vous parlez fort, vous arrivez à travailler, vous lisez des histoires à vos enfants le soir. Donc, finalement, ce que vous aimez pas, c'est ces petits côtés rauques. Mais si je vous opère et que ça fait une mauvaise cicatrisation et que vous vous retrouvez avec une voix comme ça... et ben là vous regretterez toute votre vie. Donc je pense que il faut aussi apprendre à ne pas opérer. Et ça, c'est avec l'expérience qu'on arrive à dire aux patients de manière sûre, non, je vous opérerai pas, comptez pas sur moi là-dessus.
Comment est-ce qu'ils le prennent en général?
Bah, finalement, ils le prennent plutôt bien parce que ils ont l'impression que ils sont échappés à de quelque chose. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, mince, peut-être que si j'avais vu quelqu'un qui voulait m'opérer, ma voix aurait été détériorée, ça aurait été pire. Et en plus, les cordes vocales, c'est un peu comme les oreilles. Les oreilles, une fois que c'est abîmé pour toute la vie. Et les cordes vocales, elles sont organisées en feuillets avec notamment une couche un peu gélatineuse qui est un peu particulière et que le corps ne sait pas régénérer. Et cette couche gélatineuse, si on l'abîme en opérant, si on veille pas à la préserver, eh bien, ça peut faire une cicatrice assez profonde et ça détériore la voix. Et ça, en 2023, on ne sait pas encore la reconstruire. Donc ça, je l'explique aux patients. Je leur dis, peut-être que dans 10 ans, si on sait refaire cette couche gélatineuse, je vous opérerai, mais pour l'instant, non.
Est-ce qu'il y a des découvertes, justement, comme vous parlez hein, de ce qu'on ne peut pas encore faire, est-ce qu'il y a des découvertes en lien avec la voix dont vous aimeriez nous parler?
En ce moment, ce dont on parle beaucoup, c'est la façon d'opérer plutôt. C'est-à-dire que, je vous disais, moi j'opère beaucoup sous anesthésie générale, en ambulatoire, mais maintenant se développe en France et un peu en prenant exemple sur nos amis américains qui, eux, n'ont pas la sécurité sociale, donc qui cherchent toujours des solutions un peu plus maniables, un peu plus faciles d'opérer. Eh bien, maintenant, on essaye d'opérer les cordes vocales sans anesthésie générale. Donc, c'est-à-dire que vous êtes assis, bon, dans un petit bloc opératoire, on vous met de l'anesthésie en local. Alors, vous qui n'aimez pas qu'on passe par le nez, vous allez pas aimer, mais on met une fine caméra par le nez et ensuite, soit avec un laser à côté de la caméra, soit en passant par la voie cervicale antérieure vers la pomme d'Adam, on peut injecter des produits dans les cordes, on peut enlever des lésions. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est beaucoup moins contraignant pour le patient. Il faut savoir qu'il y a des lésions comme la papillomatose. Les patients qui sont atteints de cette papillomatose, parfois, ils sont contraints de se faire opérer tous les 3, 4, 6 mois. Et donc, ils aiment beaucoup cette technique où, finalement, ils viennent pendant une heure à l'hôpital, ils repartent ensuite travailler. C'est beaucoup plus léger pour eux.
Quel est l'impact émotionnel dans les troubles de la voix? Qu'est-ce que vous avez constaté avec vos patients?
Finalement, il est majeur parce que avant qu'on ait une modification de la voix, en fait, on se rend pas compte à quel point notre voix, c'est notre identité vocale. Autant le nez, on a conscience que si on change de nez, on se reconnaît pas. Autant la voix, on n'en a pas vraiment conscience. Et pourtant, parfois, c'est vraiment la phrase beaucoup répétée par mes patients. Quand je leur dis « qu'est-ce qui vous gêne dans votre voix ?», ils me disent « c'est pas ma voix ». Alors que bon, ils ont une voix plutôt de bonne qualité, mais disent « mais c'est pas ma voix, j'aime pas cette voix, c'est pas la mienne ». Parce qu'ils ont une voix un peu rauque, une voix un peu tremblante. Et je le vois beaucoup dans des patients justement qui ont un tremblement vocal ou des maladies neurologiques type dysphonie spasmodique. C'est des maladies qui créent une fragilité vocale avec des spasmes. Et ils voient davantage l'effet psychologique, par exemple le stress, les émotions, que ça a sur leur voix. Ils disent « quand je suis stressée, ma voix est catastrophique. Quand je suis bien, ma voix est super bien ». À tel point que souvent, on leur dit « mais c'est complètement psychologique ton problème de voix », ce qui est pas le cas. Mais moi, je leur dis « mais moi, quand je suis émue, j'ai la voix qui chevrotte aussi. Mais si c'est comme j'ai pas de maladie de la voix, j'arrive un peu à faire avec. » Alors que eux, ça se ressent davantage.
Et donc, vous injectez de la toxine?
C'est ça, j'injecte de la toxine botulique, très particulièrement dans ces cas-là. Donc, c'est une maladie, la dystonie laryngée, qui est rare, mais qui est très invalidante. Parce que c'est une maladie neurologique, c'est-à-dire que le cerveau envoie des mauvaises informations aux muscles des cordes vocales. Et donc, le cerveau demande finalement aux cordes vocales, soit elles se ferment trop, donc ça donne une voix très serrée comme ça, ou soit elles s'ouvrent trop quand on parle. Et la voix, ça donne une voix comme ça. Alors, ce qui me réjouit, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes publiques qui en parlent. Il y a Robert Kennedy Jr. qui s'est présenté à l'élection présidentielle des États-Unis, qui a fait son discours avec une voix comme ça de dysphonie spasmodique.
Hey, to announce my candidacy for the Democratic nomination for President of the United States. My mission over the next 18 months of this campaign and throughout my presidency will be to end
Il y a le cuisinier Jordi Roca aussi qui a une forme comme ça en ouverture, qui en parle beaucoup, qui fait des interviews avec un micro et sa voix chuchotée.
Después parte aquí con un artista que es catalán que tiene una peculiaridad que es que solo ve todo en blanco y negro.
Donc je trouve que c'est très bien d'en parler parce que c'est une maladie dans laquelle il y a beaucoup d'errances diagnostiques, les patients savent pas ce qu'ils ont, il y a beaucoup de médecins qui la connaissent pas. Donc je suis presque contente de voir que on en parle et donc elle est mieux connue.
Et parmi les aspects émotionnel, qu'est-ce que vous avez remarqué d'autre chez vos patients? Pour des cas peut-être moins graves
concernant quand ils ont des problèmes de voix?
Quand ils viennent vous voir.
Après, toute la journée, je vois des patients qui viennent me voir pour leur voix. Souvent, la voix, c'est quelque chose qui les rattache à leur vie sociale. Je pense à des personnes âgées. Vous savez, la voix, elle vieillit en même temps que nous. Alors, chez certains patients, plus que d'autres. Et qui me disent, écoutez, c'est terrible. Alors, pourtant, on se dit, bon, bah, Madame Dupont, elle a 83 ans, elle vient me voir pour sa voix. Peut-être qu'elle a d'autres problèmes de santé qui sont plus graves, finalement. Et en fait, elle me dit, non, mais vous vous rendez pas compte, parce que maintenant, j'ai une voix un peu faible, un peu tremblotante. Donc, soit elle peut plus aller à la chorale, qui était l'activité principale de la semaine après laquelle elle allait boire un café avec les copains, voire dîner. Donc si elle me dit si je vais plus à la chorale, moi c'est catastrophique. Mais il y a aussi ne plus téléphoner, ne plus faire ses courses. Et donc c'est un peu comme l'audition, la voix, c'est-à-dire qu'on peut très vite, en ne communiquant plus, s'enfermer comme ça chez soi, à ne plus répondre au téléphone, ne plus voir aller chez le coiffeur. Donc finalement la voix, c'est ce qui nous rattache à tout le monde extérieur. Donc il faut vraiment la chouchouter sa voix et écouter le patient quand il dit que il est en souffrance à cause de sa voix, essayer de pas le prendre à la légère.
Et pour revenir sur les injections de toxines botuliques, vous le faites aussi, je crois, dans le cas du bruxisme?
Exactement. La toxine botulique, c'est un super médicament qui a plein de propriétés et sa principale propriété, elle est myorelaxante, c'est-à-dire qu'elle fait se relâcher les muscles dans lesquels on l'injecte. Et donc, le bruxisme, c'est vous serrer trop les dents. Et on a beau faire tout le yoga, la kiné, la détente qu'on peut, finalement, on a du mal quand même à détendre sa mâchoire. Donc, d'y injecter de la toxine botulique, ça permet de relâcher la mâchoire et ça permet de sortir de ce cercle vicieux de serrage dentaire.
Dans ces cas-là, c'est vous qui posez le diagnostic.
Exactement.
Est-ce que l'ostéopathe, ça peut aider?
Bien sûr, ça peut aider. L'ostéopathie, la kiné, en massant, en détendant, en mettant le point sur les zones tendues. Ça permet aussi aux patients de se rendre compte qu'il serre beaucoup trop, de trouver des moyens à lui de détendre sa mâchoire.
Quels sont vos projets, vos futures aspirations pour la suite de votre carrière?
Mes projets à plus court terme, c'est justement de faire partie d'un ensemble un peu pluridisciplinaire qui met en relation des orthophonistes, des kinés, des professeurs de chant, qu'on essaye de mettre en place. Alors pas de manière physique, il y avait Elisabeth Fresnel, hein, qui est vraiment très connue, que j'adore, qui était phoniatre, qui est partie à la retraite en décembre, qui avait créé un laboratoire de la voix à Paris. Et en fait, sous le même toit, elle avait réuni un professeur de chant, un kiné, une psychologue, des orthophonistes, elle. Et on essaye de reproduire cette espèce de pluridisciplinarité, mais à distance. Donc ça fait partie des projets de 2023. J'aimerais aussi... il y a un partenariat, entre guillemets, avec le CNSM, justement, d'essayer de sensibiliser les nouveaux élèves du conservatoire à leur instrument vocal et leur proposer de venir faire un bilan, regarder leur corde vocale avant de commencer leur formation au conservatoire et bien sûr venir si ils ressentent une fatigue ou un inconfort pour que j'examine à nouveau leur corde. Et puis sinon, continuer à être immergée dans le monde de la voix, avoir des journées beaucoup plus longues pour pouvoir aller au concert, au théâtre, à l'opéra pour voir davantage de chanteurs, etc.
Est-ce que vous allez régulièrement voir vos patients?
Alors, je ne vais pas régulièrement voir mes patients, parce que j'aurais trop peur de les entendre chanter. Après, il y a vraiment un moment très émouvant où j'ai opéré un patient qui est un grand showman français qui m'a invité à la dernière de sa tournée qui était à Paris. Et donc, j'étais dans le public, j'ai adoré le spectacle. Et à la fin, pendant les saluts, il faut pas que je pleure, il a dit, voilà, c'est un soir un peu spécial parce que ma chirurgienne, je crois qu'il a dit, est dans la salle et c'est grâce à elle que je suis ici et que j'ai pu faire ma tournée, etc. Et c'était vraiment un moment, mais d'émotion, je crois que c'était le moment le plus émouvant de ma carrière, de voir la reconnaissance de ce patient vis-à-vis de moi.
Est-ce que vous auriez un livre à nous conseiller sur la voix ?
Alors, j'ai découvert un livre que je suis en train de lire, qui est d'une consoeur qui s'appelle Docteur Perifonta.
Elisabeth. Ah oui, Elisabeth.
Voilà, qui est strasbourgeoise. J'ai fait mes études à Strasbourg, mais j'ai jamais eu le plaisir de la rencontrer, qui s'appelle Connaître sa voix pour mieux la préserver. Et je trouve qu'il aimait vraiment... Vous l'avez lu, non?
Oui, en fait, avec Elisabeth, on co-organisait des conférences sur la voix ensemble.
Ah bah distance. Voilà, elle est. Mais ce livre est super. Hein.
Et pour les enfants, je trouve qu'il y a aussi le livre pop-up qui est très très bien.
Ah, je le connais pas celui-là.
Il y a un livre pop-up avec un diaphragme, des cordes vocales, tout en pop-up. Et il y a le même pour l'audition aussi.
Et c'est elle qui fait les larynx en. C'est
oui,
les larynx en papier. Pour... Ouais, non, mais elle est super. Elle. Mm. Faudrait que j'aille la voir un jour.
Et l'idée est venue quand elle lisait des livres pop-up à ses enfants. Et elle s'est dit, mais je vais faire la même chose pour expliquer à mes patients.
Ah bah ouais, bah je pense que c'est vachement bien. Parce que c'est vrai qu'on a toujours... Moi, je suis là à essayer de mimer sur ma main, à faire des dessins. Et à chaque fois, je me dis, mais il faudrait que j'invente un truc pour cette fameuse gelée, là. Leur expliquer ce que c'est le gelée, l'espèce de renqué, etc. Effectivement, j'avais vu qu'elle avait fait un larynx en carton pour bien expliquer comment les cornes ou le larynx bascule, etc.
C'est ça, et ça s'étire comme un accordéon. Et je sais, donc, elle travaille beaucoup aussi avec la coach vocale... Isabelle Marx, que j'avais aussi invitée dans le podcast, et elle avait aidé au début à faire des larynx en pâte à fimo.
Ouais.
Voilà.
Ça m'étonne pas. On cherche des trucs,
c'est
bien,
ça.
Je suis pas la seule. Donc, son livre est vraiment super bien. On le lit comme ça, chapitre par chapitre. Je trouve que c'est un des meilleurs pour l'instant que j'ai lu. Il est très bien illustré, donc je conseille.
Quelle est l'une des émotions les plus fortes que vous avez ressenties en lien avec la voix ? Donc, vous nous avez parlé du spectacle tout à l'heure. Est-ce qu'il y a...
Il y a ce spectacle. Et ce qui est incroyable quand on est médecin de la voix, c'est qu'il y a quand même des moments de grâce où on a vu un patient qui n'allait pas bien. Alors, soit on l'opère, soit on lui montre comment utiliser sa voix. Et tout d'un coup, le patient réalise qu'il va beaucoup mieux. J'ai deux exemples. J'ai l'exemple d'une dame de 75 ans qui avait une paralysie d'une corde vocale suite à une chirurgie cervicale. Son nerf avait été abîmé. Et ça faisait des années qu'elle avait une voix comme ça. Et donc, elle avait du mal à communiquer. Pendant les repas de famille, personne l'écoutait. C'était une dame très, très vive. Elle adorait blaguer. Et donc, elle commençait à s'éteindre petit à petit. Le feu s'éteignait, quoi, littéralement. Je lui ai proposé de médialiser sa corde vocale. C'est-à-dire qu'en fait, on met un petit implant en faisant une petite cicatrice au niveau du cou pour un peu basculer la corde vocale paralysée, qu'elle arrive à venir toucher l'autre. Pour redonner du volume à la voix, en fait, ça y est, les cordes se touchent à nouveau. C'est très satisfaisant parce que c'est une intervention qu'on fait sous anesthésie locale. Et donc, en fait, je lui ai posé cet implant. On l'amène en salle de réveil quand même pour qu'elle retrouve un peu ses esprits, lui passer des antalgiques. Et en fait, dès le réveil, elle m'a dit « Mais ça y est, je parle !» Et elle reparlait et elle avait retrouvé son punch d'avant. Et elle me l'a redit à la consulte, elle me dit « c'est incroyable parce que ça y est, maintenant, je me retrouve comme avant, on ne parle plus quand même à une petite mémé avec une voix toute toute effacée. Maintenant, je suis à nouveau la femme que j'étais. » Donc là, c'était vraiment très émouvant parce que il y avait vraiment le avant-après. Donc je me disais « bah c'est super, je l'ai vraiment aidée. » Et puis, il y a aussi des jeunes hommes qui ont une mue faussée. Une mue faussée, c'est... Ils utilisent encore leur voix d'enfant, même s'ils ont eu leur adolescence, ils ont eu leur croissance. Et parfois, juste dans l'espace de 20 minutes, le temps de la consultation, on leur explique ce qu'ils ont et on leur explique que qu'en faisant résonner leur voix de poitrine, en mettant une main sur leur poitrine, ils peuvent avoir une voix grave s'ils le désirent. Et c'est pareil, des fois, juste dans les yeux de ces hommes et souvent les parents qui accompagnent, et ça y est, ils arrivent à émettre les sons, des sons graves qu'ils ont tellement envie d'avoir. Et voilà, en quelques minutes, ça y est, il a compris. Et des fois, il repart et ça y est, on peut plus l'arrêter de parler avec sa voix grave. Donc ça, c'est vraiment très émouvant de prendre en charge un patient vraiment de A à Z.
Et puis dans un instant T de sa vie.
Exactement, ouais.
Alors, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux. Votre pseudo, c'est Docteur de la Voix. Est-ce que vous voulez bien nous parler de votre compte Instagram ?
Bah, mon compte Instagram, je suis vraiment très heureuse de l'entretenir. Pas aussi fréquemment que j'aimerais, malheureusement. L'idée est partie du fait que je trouvais que sur Instagram, il y avait beaucoup de spécialités médicales qui étaient représentées. La dermatologie ou des paramédicaux, la kiné, l'orthophonie. Et on parlait pas beaucoup de l'ORL. Mais je voulais pas faire un compte destiné aux autres médecins. Et ça parce que mon mari n'est pas médecin. Et je voulais qu'il relise mes posts. Et lui, il voulait pas voir de photos de cordes vocales. Il en était hors de question. Donc j'ai commencé à essayer de rendre accessible des sujets qui le sont pas forcément.
Pourquoi est-ce que vous vouliez qu'ils relisent vos posts ?
Parce que je voulais avoir un avis extérieur.
D'accord.
Sur est-ce que c'est clair pour quelqu'un qui n'est pas médecin.
D'accord.
Voilà,
ah oui.
Donc c'était vraiment la personne idéale. Et après, mes parents se sont mis à les relire aussi pour les fautes d'orthographe. Et donc, je pensais vraiment partir en faisant 10 posts, en me disant, bah une fois qu'on aura parlé des kystes, des nodules, ce sera fini. Et en fait, pas du tout. Parce que on se rend compte que bah justement la voix, elle est omniprésente, les problèmes de voix, des questions sur la voix, il y en a tous les jours. Maintenant, j'ai des patients qui m'amènent des articles de journaux. Il y en a un, mais c'est un patient qui a 80 ans, il m'a amené un article de journal sur une application qui permet de réguler sa fatigue vocale, mais un truc que j'aurais jamais lu s'il avait pas été là. J'ai des cousins qui m'envoient des articles, idées de poste, point d'interrogation. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Et moi, en fait, j'apprends vraiment beaucoup de choses parce que je me force à me pencher sur le sujet, à parler du sujet de manière vraiment très objective et scientifique. Donc c'est très intéressant. Et là, moi, je pense que mon prochain poste, ce sera sur justement la Philharmonie de Paris qui essaye d'ouvrir la musique aux personnes sourdes en leur donnant un sac à dos vibrant.
Génial.
Ouais, je trouve ça génial. Donc en fait, voilà, la voix, on en parle tout le temps finalement.
Quel est l'impact des retours que vous avez des abonnés sur vous et puis sur votre envie de continuer à créer du contenu ?
Mais il est hyper positif. C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur les réseaux sociaux.
Moi, j'avais peur au début.
Oui, voilà. C'est pour ça que je fais attention aux fautes. C'est pour ça que j'essaye vraiment de me baser que sur des faits scientifiques pour pas qu'on puisse me dire que ce que je dis n'est pas juste.
J'imagine encore plus en tant que médecin.
Oui, voilà, il faut que ça reste crédible. Mais finalement, déjà, quand les gens mettent un commentaire, je suis hyper touchée parce que je me dis qu'ils ont tout lu. Donc ça, déjà, je suis contente. À chaque fois, c'est quelque chose de constructif. Donc, je suis contente parce que les réseaux sociaux, finalement, même moi, je vois, j'apprends plein de trucs quand on s'abonne aux bonnes personnes et à des comptes intéressants. Il n'y a pas que des mauvaises choses, ça peut être très positif et très instructif.
Ce que je trouve passionnant aussi, c'est de voir les messages que peuvent envoyer les abonnés, puisque c'est des abonnés qui ont les mêmes centres d'intérêt.
Oui.
Donc, au final, je trouve qu'ils apprennent autant que nous. On va proposer de contenu, ils vont nous en proposer aussi.
Exactement. Et des fois, ils proposent des sujets. Est-ce que vous pourriez pas parler de ça ? Donc, non, c'est hyper intéressant.
Et est-ce que ça a changé des choses, le fait d'être sur les réseaux sociaux, d'être dans les médias ? Vous êtes intervenu sur E égale M6, dans Europe 1, Top Santé. Est-ce que vous avez vu une différence, une influence de cette exposition ? Par rapport au comportement des gens ou par rapport aux retombées en tant que professionnel de la voix?
Oui, il y a forcément une retombée qui est toujours positive parce que, bah, par exemple, en passant sur France 5, il se trouve que la vidéo est restée sur YouTube. Donc, c'est des patients qui m'ont vu, qui des fois découvrent, bah, par exemple, qu'on peut injecter de la toxine dans le bruxisme. Ça, typiquement, ce film, il sert à ça. Et puis, les gens me voient. Des fois, il y en a qui arrivent et qui disent « Non, mais de toute façon, je sais qu'on va bien s'entendre parce qu'ils me connaissent un peu via les films ou les émissions. » Donc moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
Ils sont davantage rassurés, en fait.
Exactement. Ils sont rassurés. Ils savent quel type de médecin ça va être. Et comme j'essaye d'être le plus naturel possible, voilà, ils sont pas surpris. Mais j'aime bien faire ce type d'émission. Au début, c'était un peu, je vous avoue, pour amuser mes filles de passer sur Egal M6. Et puis finalement, mes patients aussi adorent. J'adore quand ils disent « Mais dis donc, je vous ai vu dimanche à la télé !» En fait, ils adorent parce qu'ils ont dit « Ah, j'ai appelé toute la famille, je leur ai dit que c'était mon médecin. » Et en fait, ça leur fait plaisir de voir leur médecin à la télé. Ils peuvent aussi montrer à leur entourage ce qu'ils ont, des fois les injections de toxines botuliques, ah bah voilà ce que j'ai, tu peux enfin voir ce que j'ai. Donc à chaque fois c'est quelque chose de positif. C'est pour ça que je continue d'ailleurs.
Comment est-ce que vous organisez votre temps pour travailler, pour avoir une vie familiale, créer du contenu, aller au concert?
Eh bien, je ne dors pas. Non, j'essaye à chaque fois de trouver un temps qui est dédié à ce que je fais pour le faire de manière qualitative. Il faut que à chaque fois que ce soit de qualité. Si je sens que je vais pas pouvoir faire quelque chose bien, voilà, je préfère pas le faire. Mais finalement, j'arrive, je travaille quand mes enfants dorment, par exemple. Un peu comme toutes les mamans. Après, bien sûr, tout ce qui n'est pas prioritaire, par exemple le compte Instagram, ça fait longtemps que j'ai pas posté parce que je sais que ça, c'est pas très grave. Il vaut mieux que je m'occupe de mes patients, que je les opère, et puis Instagram, je le ferai pendant les vacances.
Donc, ce sera pas vacances sans réseau.
Ah non, pas du tout. Moi, je suis très connectée.
Est-ce que vous avez envie de nous parler de certaines de vos publications, de vos travaux de recherche sur la voix?
Ce que je publie, c'est forcément en rapport avec la dysphonie spasmodique, qui est donc cette fameuse maladie rare, parce que c'est vraiment une maladie qu'on ne traite pas beaucoup ailleurs. J'ai des patients qui viennent vraiment de loin pour que je les injecte, parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'injecteurs dans la région parisienne, et même en France, on est peut-être 4 ou 5.
Ça se fait.
Eh bien, parce que ça n'intéresse peut-être pas beaucoup. Déjà, la voix, c'est un domaine qui n'intéresse pas beaucoup les ORL. Les ORL, ils aiment beaucoup la chirurgie de l'oreille, des sinus, du cou. Et finalement, la chirurgie des cordes vocales, c'est pas une spécialité. J'arrive pas à comprendre pourquoi, parce que bien sûr, moi, ça me passionne. Mais les jeunes ne sont pas forcément beaucoup vers la chirurgie laryngée. Donc, il y a pas non plus beaucoup d'injecteurs de toxines botuliques dans les cordes vocales. On a publié beaucoup d'articles dessus. Après, j'aimerais publier un article sur la dystonie du chanteur, c'est-à-dire la dysphonie spasmodique qui touche exclusivement la voix chantée et donc qui peut être vraiment très contraignante pour les patients chanteurs parce que c'est une maladie qui est chronique et dont il est difficile de se sortir malheureusement. Comme elle est très rare, voilà, il faut que j'écrive là-dessus.
Qu'est-ce que vous conseillez pour s'en sortir justement ?
En fait, c'est une maladie qui sera là. Elle est là. Donc, si en injectant de la toxine botulique, ça permet au chanteur de continuer à chanter, c'est super. Des fois, j'ai des patients qui préfèrent chanter avec leur spasme, avec leur tremblement, sans toxine botulique parce qu'ils se sentent plus à l'aise. Mais les conseils, parfois, malheureusement, et c'est très douloureux, c'est soit de changer de tessiture, soit de changer de style musical, soit de changer de carrière, de ne plus être chanteur soliste, mais toujours chanter, mais différemment. Mais ça, c'est difficile. Et nous, les médecins, les orthophonistes, on est là pour accompagner le patient et toujours être avec lui dans ces moments qui sont douloureux.
J'avais une dernière question à vous poser par rapport à la voix avant de conclure sur la fin. Qu'est-ce que vous conseillerez aux chanteurs en termes d'échauffement corporel, d'échauffement du souffle, d'échauffement de la voix?
Déjà, je leur conseille de s'échauffer parce qu'il y a beaucoup de chanteurs professionnels, semi-professionnels, amateurs qui passent un peu cette phase et elle est vraiment primordiale.
Est-ce qu'ils vous disent pourquoi? Est-ce qu'il y a une tendance qui se dégage?
Souvent, c'est qu'ils n'en ressentent pas le besoin. Ils arrivent à chanter, ils s'appuient sur leur voix, ils ont
leurs acquis.
Exactement, sur leurs acquis. Souvent, ils ont jamais pris de cours de chant et donc ils se disent tant que ça tient, ça tient. Donc je les conseille de s'échauffer. Après, moi personnellement, je pense que j'ai pas de choses à recommander, c'est très personnel, mais il y a tout ce qui est souffler avec la paille, dans de l'eau, tous les exercices à bouche fermée, tous ces échauffements assez doux que les chanteurs doivent faire. Comme un sportif qui s'échauffe, encore une fois.
Oui. Alors, vous étiez l'invitée de Sabine Devielle, qui est l'une de vos patientes, et je pose toujours cette question qui me permet de découvrir des nouvelles personnes. Qui aimeriez-vous entendre parler de la voix parmi les chanteurs, les professionnels de la voix francophone?
Alors, moi, j'aimerais... Déjà, je suis très flattée d'avoir été proposée par Sabine Devielle, qui est extraordinaire. Et j'aimerais vous proposer un chanteur qui s'appelle MB14.
Oui, j'avais cherché à le contacter.
Ah!
Je n'ai pas réussi.
Ah mince! Bon, qui est un beatboxer de talent, qui est incroyable. Oui. Et voilà.
Il a été énormément demandé dans le podcast. Puisqu'on m'envoie beaucoup.
Ah.
Enfin, les auditeurs.
Okay.
Les auditeurs, vous êtes la première invitée.
D'accord. Donc, je le connais pas personnellement, mais, ou alors un beatboxer, parce que je trouve ça incroyable, le beatbox. J'ai vu une interview de MB14 qui arrive à faire des sons en inspiration, en expiration. Je trouve que la gestion du souffle, elle est incroyable. Et puis parce que aussi j'ai une consoeur qui est en train de développer une technique d'orthophonie qui se base sur le beatbox, sur tous les sons produits par le beatbox, les mouvements que ça engendre au niveau du pharyngolarynx.
Est-ce que c'est Lisa Paroni?
C'est Lise Crevier-Buchmann avec Claire Pilot-Loiseau à l'hôpital Foch. Et donc je trouverais ça génial que voilà un beatboxer soit à votre micro.
Ouais, j'aimerais beaucoup ça que. C'est très intéressant. Moi, j'avais rencontré Lisa Paroni elle était chercheuse au CNRS.
Oui.
Et elle faisait justement ses travaux de recherche sur le beatbox.
Ah ouais, non, mais parce que c'est incroyable. Donc, ça m'étonne pas du tout que.
Les flûtistes aussi, là-dessus. Parfois, font du beatbox.
Les flûtistes? En jouant de la flûte.
En alternant flûte et beatbox.
Ah, incroyable.
Parce qu'à la gestion du souffle, mais oui, le beatbox.
Voilà.
Mais donc, merci. C'est quelque chose que j'ai pas encore fait, que j'avais envie de faire.
Ah bah super, bah je suis contente.
Si votre voix était verbe créateur, que souhaiteriez-vous créer ?
Eh bien, je vais répondre quelque chose que je dis à mes petits patients. Je leur dis, écoute, en 2023, c'est incroyable, mais on ne sait pas encore regarder les cordes vocales en passant soit par le nez, soit par la bouche. Je ne suis pas James Bond, je peux pas voir tes cordes vocales à travers ta peau, mais c'est ça que j'aimerais faire. Inventer un appareil pour voir les cordes vocales à travers la peau et les cartilages pour les voir comme ça en mettant des lunettes. Ce serait génial.
J'avais entendu parler d'un système de radio, je crois, ou d'imagerie.
Tout ce qui est pour l'instant, en tout cas, ce que je sais, tout ce qui est échographie, scanner, IRM. Ça permet de voir les cordes vocales dans leur globalité. C'est utile, par exemple, dans une paralysie d'une corde vocale ou dans des lésions, des cancers. Mais malheureusement, pour tout ce qui est microscopique ou même pour voir l'ondulation de la corde vocale, qui est vraiment la clé de la qualité vocale, il y a que des caméras à voir directement. Alors, des fois, pour le reflux, on fait boire un liquide, on fait des photos pour voir comment progresse le liquide.
D'accord.
Et voir s'il remonte, donc voir s'il y a un reflux. Après, il y a des super imageries d'une équipe, il faudra vérifier si c'est allemande, c'est l'IRM dynamique.
Oui.
De chanteur,
oui.
Et on voit, mais.
C'est incroyable.
Ouais, la mobilité de la langue, du voile du palais.
Je l'avais mis dans une vidéo YouTube.
Ah ouais, c'est incroyable. Donc ça, je trouve ça vraiment génial.
C'est
des
fascinant
fois,
à
on a
voir.
Une langue en marche d'escalier, là,
et
c'est
le
génial.
Et le palais aussi, je
ouais,
trouve.
Qui se lève, la mobilité du larynx. Je trouve que c'est incroyable pour voir, justement, il faut que tout bouge, il faut que tout soit ouvert pour pouvoir chanter le
oui.
mieux possible, quoi.
Et je crois que c'est joyeux anniversaire, d'ailleurs.
Il y a joyeux anniversaire. Oui. Il y a une chanteuse de yodel aussi.
C'est vrai.
Ouais.
Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour être une chirurgienne et un ou une docteur de la voix encore plus épanouie?
Eh bien, pour l'instant, écoutez, il faut savoir reconnaître quand on est bien. Et pour l'instant, je suis très bien. J'arrive à bien gérer mon temps professionnel, mon temps personnel, mon temps opératoire. Je vais bientôt intégrer une super équipe à l'hôpital Foch, qui est un hôpital avec une super équipe de laryngologistes. Donc, je suis ravie de faire partie de cette équipe qui est très dynamique. Donc, pour l'instant, je suis très heureuse et je vous dis, si en plus, je trouve le temps d'aller voir mes patients chanter ou jouer sur scène, alors là, je serai ravie.
Bon, bah, je vous souhaite tout ça. Et puis, je vous dis à très bientôt.
À bientôt. Merci beaucoup.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.
La clé de la voix.
J'espère que l'écoute de cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux en me taguant Clémentine Coppolaine ainsi qu'en taguant mon invité. Si le podcast est utile pour vous, s'il vous plaît, mettez un commentaire sur Spotify ou Apple Podcasts pour m'aider à le faire découvrir. Pour plus de renseignements sur mes accompagnements ou pour toute question, vous pouvez m'écrire par mail ou sur les réseaux. Mille merci d'avoir écouté La Clé de la Voix. À très vite pour un nouvel épisode.